Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Justine.
Bonjour Clarence.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Est-ce que pour démarrer cette interview, tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Eh bien, ravie, je suis Justine Chabanne. Je suis psychologue du travail avec une spécialité dans la psychologie positive, une discipline qui mérite qu'on explique un petit peu ce que c'est malgré le nom qui parfois peut laisser sous-entendre. En fait, je m'intéresse à regarder qu'est-ce qui fonctionne bien chez l'individu, chez la personne, comment on est quand on se sent bien, quand on se sent bien dans sa vie en général et particulièrement dans le travail. Se sent bien et motivé au travail, c'est ça qui m'anime tous les jours. Donc, psychologue du travail qui intervient sur ces sujets-là dans les entreprises ou auprès des personnes qui en ont envie et besoin.
C'est ça, et tu es l'autrice avec Ilona Boniwell du livre qui s'appelle « Psychologie positive, 10 séances d'auto-coaching pour se motiver et s'épanouir dans son job » qui est paru aux éditions Viber. Donc effectivement, ma première question allait être justement, hein, qu'est-ce que la psychologie positive ? Et tu as répondu. Moi, j'interviens beaucoup auprès de personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui arrivent et qui me disent « je suis complètement démotivée ». Tu parles justement dans cet ouvrage de différents types de motivation. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ces différences et les différents types qui existent ?
Tout à fait. Alors dans la motivation... Les chercheurs, alors je reviens peut-être sur ça, on a parlé rapidement de la psychologie positive, mais j'aimerais bien rajouter quelques éléments. On s'intéresse à ce qui fonctionne, mais on s'y intéresse en faisant aussi de la recherche, c'est-à-dire qu'on analyse sur des personnes qui font des pratiques ou des groupes, voir si des pratiques qu'on leur propose pour développer leurs ressources marchent. Et ça veut dire que souvent, on les compare à des groupes témoins de personnes qui ne font pas et on regarde si les interventions de la psychologie positive ont un impact. Donc ça, c'est important parce que je vais vous parler de recherche tout de suite pour répondre à ta question sur la motivation. Alors, il y a deux chercheurs qui s'appellent Desi et Ryan qui ont beaucoup travaillé sur cette notion de la motivation. Et je trouve que les deux termes un peu sympas à comprendre, c'est motivation extrinsèque et motivation intrinsèque. Alors, dans ces mots-là, ça veut dire finalement, est-ce que je suis motivée à faire ce que j'ai à faire ? Alors, peut-être même mon travail, là, quand on parle des personnes en reconversion, mais tout travailleur, finalement, est-ce que je fais les choses parce que je suis obligée de les faire ou parce que j'ai des choses extérieures qui m'obligent de le faire, comme par exemple des obligations extérieures, des contraintes, le salaire, des obligations, des choses que l'on a ou qu'on peut nous retirer si on ne fait pas notre travail. Et donc, on est motivé extrinsèquement pour faire plaisir à des choses extérieures à nous. Et ils ont parlé, les chercheurs, de ce continuum, on va dire de cette motivation, je suis obligée de le faire, à aller vers quelque chose qui nous motive parce qu'on aime le faire. Parce que par nous-mêmes, ça nous plaît, ça nous anime, c'est des choses qu'on adore faire. Alors ça, on appelle ça la motivation intrinsèque, c'est le graal, on pourrait dire, de la motivation. Au milieu, il y a plein d'autres petites motivations qui, petit à petit, passent d'une motivation extérieure à nous à une motivation intérieure. Donc, je pense, si on parle de la reconversion, eh ben, sûrement, on va vers quelque chose de nouveau parce que ce qu'on faisait avant ne nous motivait plus. Peut-être parce qu'on a perdu cette motivation intrinsèque, parce que ça, ce qu'on y gagnait extérieurement à nous, ça ne suffit plus et on va chercher à aller vers quelque chose qui nous plaît, qui nous anime et qui nous engage. On cherche beaucoup ça. Tu disais se motiver et s'épanouir, c'est pour moi deux notions vraiment importantes. C'est, on cherche les deux, à la fois être content et bien dans ce qu'on fait, avec plein d'émotions positives, mais aussi à vraiment être motivé à faire les tâches qu'on a envie de faire. C'est vraiment très important, ça. Pas juste se sentir juste bien, oui, mais parce que ce qu'on a dans le fond à faire, ça nous plaît, ça nous anime, ça nous donne envie de nous y mettre.
Est-ce que tu as repéré des facteurs de démotivation principaux qui revenaient justement dans les études, les recherches ?
Alors, quand tu me poses cette question, je connais bien les facteurs qui aident à motiver. Donc, on va essayer de les dire dans l'autre sens. Dans les facteurs qui sont très importants pour l'engagement et du coup très désengageants, bah, évidemment, celui-là est souvent cité. Il y a un rapport au management et au leadership dans lequel auquel on peut être confronté, par exemple, qui peut être parfois un facteur démotivant si on n'a pas forcément cet accompagnement. Mais c'est évidemment pas le seul, comme d'ailleurs le salaire en est un, hein, qui peut être démotivant. Mais qui n'est pas le seul, parce qu'on parle ici de leviers qui sont liés à notre environnement de travail, mais on a aussi le manque d'autonomie, on a aussi des mauvaises relations professionnelles avec des collègues, on a aussi une perte de confiance dans l'avenir, une perte d'optimisme, ou aussi, par exemple, des pertes simplement sur nos ressources à nous individuelles, peut-être l'impression d'être mangé par son temps. Une perte de vitalité, même de santé physique, parce qu'on se fatigue et on est épuisé à faire tout ce qu'on a à faire. Donc, en fait, si j'essaye de catégoriser pour nous aider peut-être à mieux comprendre, c'est que pour être bien et engagé au travail, ou pour expliquer quand on n'est plus bien ou plus engagé au travail, il y a trois types de choses. Il y a nos propres ressources, les ressources de notre organisation, là où on retrouve les salaires, le leadership, le management. Et puis au milieu, il y a un truc qui s'appelle dans la recherche notre vécu au travail, c'est-à-dire est-ce que j'ai de l'autonomie, est-ce que j'ai des bonnes relations, est-ce que j'ai un sentiment de compétence à faire ce que j'ai à faire. Et on a vu que ces trois types de ressources-là, ils sont très importantes parce qu'il y en a sur lesquelles on a la main, personnellement, il y en a sur lesquelles on est obligé d'être dans l'attente d'une organisation, si on travaille dans quelque chose de plus grand. Et puis il y en a, c'est un mélange un peu entre les deux. On a notre mot à dire, et puis on a aussi, par exemple, dans l'autonomie, est-ce qu'on nous laisse faire ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a une petite marge dans notre travail où on peut prendre des décisions? Ou alors est-ce que c'est complètement figé? Vous voyez, il y a un peu les deux. Je ne sais pas si ça te répond, Clarence, mais voilà un peu ce qui me vient.
Ouais, si. Et si on va un peu dans le détail, justement, quand tu parles de nos propres ressources, qu'est-ce que tu inclus dedans?
Alors, dans nos propres ressources, c'est beaucoup qu'on a écrit dans le livre. Une grande partie sont... En fait, on a beaucoup détaillé ces ressources individuelles. Dedans, on y trouve la vitalité, comme je disais, ce sentiment où c'est déjà se prendre soin de nous, en termes généraux, de notre santé mentale, physique, parce que c'est essentiel. Déjà, je trouve que c'est difficile d'être motivé à faire ce qu'on a à faire quand on ne dort pas bien, on ne mange pas bien, on ne fait jamais de pause... Bon, c'est un petit peu des choses générales, mais c'est quand même au centre. Nous, pour nous, on a commencé avec ça dans le premier chapitre. On disait faire de sa vitalité une priorité, parce que sans ça, c'est déjà difficile après de rester même motivé, etc.
Pardon, je me permets de te couper. Et effectivement, c'est comme tu dis, c'est général. Et en même temps, c'est peut-être la première chose qu'on a tendance à oublier. Parfois,
Exactement.
On va traîner les pieds pour aller au boulot, râler le matin, et juste parce qu'on est fatigué, en fait, et sans faire de lien nécessairement entre les deux.
Et parfois, ça impacte un peu tout le reste aussi, dans les deux sens. Hein. L'environnement compliqué ou mon travail un peu stressant peut être plus difficile à gérer ou à réguler parce que la fatigue, elle est là. Et puis inversement, en fait, plus je suis fatiguée, plus je vais être susceptible, moins je vais avoir envie... Ou peut-être je vais être plus dans l'attente. Enfin voilà, c'est vrai que ça se joue. Et y a vraiment le sommeil, mais il y a aussi prendre le temps de manger. Moi, je suis toujours un peu effarée quand j'accompagne des groupes ou voir des dirigeants qui me disent qu'ils prennent pas de pause du tout dans une journée, ou pas de pause du tout pour manger. Alors ça nous arrive à tous, mais déjà aussi, je pense toujours à ça en exemplarité, parce que si si nos collègues autour de nous, nos managers, font pas de pause, alors du coup, si on fait une pause, est-ce qu'on est à côté de la plaque? Est-ce qu'on va être mal vu? Si on part à une heure raisonnable? Enfin, ouais, y a des enjeux vraiment qui touchent ce sentiment-là de vitalité, et qui est très corrélé à un deuxième facteur, qui est celui des émotions, de notre capacité à réguler, gérer nos émotions, parce que nos émotions, elles sont un très bon atout quand on arrive à jouer avec, à être agile avec. Et puis parfois, elles sont... un petit peu nos démons, parce qu'elles peuvent nous chahuter, ces émotions plutôt désagréables qui peuvent aussi nous arriver. Donc, gérer, s'allier à nos émotions, c'est aussi un levier important. Du même titre aussi, notre résilience. C'est un grand terme qu'on a entendu beaucoup, mais comment je rebondis face au stress? Est-ce que j'ai en tête des ressources? Nous, on parle aussi beaucoup de la flexibilité mentale, arriver à à sortir un peu du cadre, prendre de la hauteur, voir les choses. Il y a plein de stratégies là qui sont sympas pour dire bah c'est dans notre capacité à voir un petit peu différemment. Parfois, on arrive à prendre de la hauteur, dégonfler un peu les situations de stress et du coup, aussi arriver à se ressentir bien, se réajuster, reprendre des projets qui nous plaisent plus ou qui nous plaisaient moins à cause du stress. Voilà, il y a les émotions, la flexibilité mentale, un autre sujet qui est super sympa, qu'on connaît très peu en France, qui s'appelle le capital psychologique, notre capacité, vous connaissez sûrement plutôt l'optimisme, la confiance en soi, le capital psychologique, c'est un mélange de plein de choses comme ça, et vraiment se sentir par nous-mêmes, confiant dans l'avenir, on sait où on va, on a confiance en soi, on sait de temps en temps aussi s'arrêter pour savourer, enfin voilà, il y a quelque chose d'hyper intéressant dans ça. Je crois qu'il m'en manque un dans les leviers individuels, mais oui, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, parce que ça, c'est hyper intéressant dans la psychologie positive. C'est est-ce que vous finissez votre journée ou vous la commencez, ou on pourrait dire au moment où vous écoutez le podcast, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vous avez utilisé votre temps jusqu'à maintenant? Et ça, c'est une question que je trouve hyper intéressante. C'est pas juste est-ce que tu as bien géré ton temps, c'est est-ce que tu es satisfait aujourd'hui des. On va dire, je ne sais pas, des 10 heures, 12 heures, 7 heures, si tu es correctement dans des 35 heures ou moins à travailler. Est-ce que tu es satisfait de là où tu as mis ton temps, de la façon dont tu l'as dépensé?
C'est ça,
C'est.
c'est
Vas-y.
ouais, de la façon dont on l'a dépensé, c'est plutôt de
Exactement.
l'efficacité, c'est ça.
Exactement, ouais. Et c'est une petite nuance, je ne sais pas si vous la sentez, mais je trouve qu'elle amène un rapport au temps un peu moins raide, un peu moins dur que des fois on entend, mais. Juste, on se pose ça, on a un temps qui est limité, est-ce qu'on l'utilise bien?
C'est ça, remettre aussi un peu de responsabilité, je trouve, dans le temps, on a toujours l'impression d'en manquer, de courir après. Et de se dire
Exact.
par quoi moi je veux démarrer, qu'est-ce que je veux absolument avoir fait dans ma journée, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est ça qu'on donne, par exemple, comme petit conseil, ou en tout cas, on cherche des pratiques qui donnent lieu à ça. C'est essayer dans la journée de se fixer juste trois grands objectifs à atteindre. Il y a une petite histoire ou une façon de le présenter qui dit commencez vos journées en anglais, ça s'appelle de eat the frog first. Commencez par manger la grenouille, ça veut dire commencer par le truc. Vous sentez que c'est le truc un peu lourd à faire dans votre journée, mais c'est chouette de commencer avec parce que quand vous l'avez fait, vous avez un sentiment déjà de satisfaction dans votre journée. C'est bon, après la suite. Et souvent, on est d'ailleurs hyper productif dans la suite parce qu'on s'est libéré de ce gros truc à faire qui était un peu le mail un peu compliqué, le projet où il fallait se projeter dedans pour être vraiment concentré. Enfin, voilà des petits conseils qu'on distille un petit peu, qui ne sont pas juste des conseils que de bon sens, mais qui ont aussi montré leur efficacité derrière sur nos ressources.
Ou comme mettre le sport en premier pour allier aussi la vitalité.
Exactement, exactement. Bah ça peut être très bien. Et même dans les journées, on dit des fois des pauses en marchant ou en s'aérant, des choses comme ça qui peuvent combiner. D'ailleurs, dans notre gestion du temps, est-ce que être satisfait de la façon dont tu as pensé son temps, c'est est-ce qu'on s'est levé, est-ce qu'on a fait des pauses? Parfois, voilà, si on n'en a pas mis, c'est parfois on se dit oui, mais on a bien travaillé, mais est-ce qu'on a bien fonctionné globalement? Ouais, c'est des questions qu'on peut se poser.
Donc ça, c'était les ressources internes.
Ouais.
Tu parlais aussi tout à l'heure des ressources propres à l'entreprise, à l'organisation dans laquelle on est. Est-ce que là aussi, tu
Exact.
peux détailler?
Alors là, je peux vous les détailler. On en a moins parlé dans le livre qui ont voulu des séances un peu plus d'auto-coaching parce qu'on considère là que c'est l'entreprise qui a plus la main et le mot à dire. Alors entreprise au sens large, hein, parce que des fois c'est entreprise, organisation, association, puis parfois c'est des personnes à leur compte. Mais il y a des notions ici autour du salaire, autour de la confiance, autour du management, autour de la transparence, par exemple. Ou alors aussi un sujet que je trouve intéressant, lui on l'évoque dans le livre, c'est la mission de mon organisation. À quoi elle sert? Pourquoi je travaille là? Pourquoi je travaille dans ce lieu-là? Et comment ça m'est partagé? Les valeurs, vous avez entendu sûrement ce mot, la raison d'être de mon entreprise. Et ça joue beaucoup ces leviers parce que si l'entreprise, elle sait faire partager le message. Associer les gens à une utilité sociale au sens propre, mettre des managers qui accompagnent les équipes dans une direction commune, voilà, des temps de partage. Et puis, on a parlé de salaire. Alors souvent, ça peut être une grande question. Est-ce que notre travail se résume à notre salaire? Dans la recherche, on voit que non. Non pas que le salaire n'est pas important, mais il est important jusqu'à une certaine mesure, mais aussi et surtout, le levier, c'est salaire et avantage. Il y a aussi, on l'a bien vu aujourd'hui, le télétravail, par exemple, qui avant était peu pensable, aujourd'hui est très généralisé, et puis il nous fait revoir beaucoup, beaucoup le fait d'aller sur site, la valeur d'aller sur le site, etc. On travaille beaucoup sur ça. Donc ça, c'est les conditions que l'organisation, elle va nous offrir pour nous sentir bien à faire ce qu'on a à faire, ou alors d'ailleurs, dans l'autre sens, hein, qui peuvent nous manquer pour nous sentir bien à faire ce qu'on a à faire.
Donc ça, c'est la deuxième partie des leviers de motivation. Et si on, donc, on explore la troisième partie, qui est un mix des deux, en fait. Hein.
Exact. Là, petit mélange, parce que par exemple, on retrouve les relations. Les relations, ce n'est pas que des relations managériales, c'est des relations juste à nos collègues. Est-ce que... on s'entend bien? Est-ce qu'on partage des bons moments? Est-ce qu'on partage des moments de reconnaissance? Et aussi, comment on gère quand ça se passe moins bien? Parce que ça fait aussi partie des interactions humaines. Dans le livre, on partage des choses autour de la communication non violente, mais dans le sens d'arriver à se dire, parfois, dans des feedbacks plutôt négatifs de ce qui se passe pas bien, mais on peut très bien se dire très positivement ce qui marche pas bien. À condition aussi qu'on a entretenu des bonnes relations la plupart du temps. C'est un petit peu un équilibre comme ça. Les émotions négatives ou les impacts ou les interactions négatives ont plus d'impact dans notre vie, dans notre cerveau, dans nos émotions que des interactions positives. Donc, si on favorise une bonne entente dans nos équipes, eh ben, c'est aussi plus facile de temps en temps de se dire qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien parce qu'on a alimenté en général les choses plutôt positives habituellement. On a aussi un sujet dans ces ressources un peu plus centrales qui sont ce qu'on appelle les forces de caractère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui nous rend authentiques, performants, énergisés à faire ce qu'on a à faire? Et là, moi, j'aime beaucoup jouer avec l'image de « c'est nos billes dans nos poches ». C'est-à-dire que vous, Clarence, vous faites votre métier avec des forces qui vous sont propres par rapport à quelqu'un d'autre qui pourrait gérer un podcast et qui le ferait sûrement avec d'autres choses. Et bah, c'est quelque part, regardez, c'est quoi votre spécificité? C'est quoi là-dedans qui vous plaît, qui vous anime? C'est quelle force qui vous fait échanger, qui vous fait poser les questions, qui vous fait rester dans l'échange? Et surtout, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'anime? Et ça, vous parliez pour... nos auditeurs en reconversion, peut-être que vous allez vers quelque chose qui est à définir en construction, mais vous avez déjà plein d'expériences de réussite dans votre parcours jusque-là. Bah, dès que ça vous a plu, quand vous l'avez raconté avec plaisir, avec énergie, bah, allez creuser dedans pour voir ce que vous avez utilisé là-dedans. C'est la meilleure clé, en fait, on va là-dedans trouver nos forces. Est-ce que c'est... vous étiez dans la vitalité, dans l'énergie, dans l'authenticité, plutôt dans un travail d'équipe, plutôt dans de la stratégie, parfois peut-être dans la compétition. Qu'est-ce que c'est qui vous animait là-dedans? Et regardez, parce que ces forces-là, elles sont vos meilleurs leviers pour la suite. Les chercheurs, ils disent, utiliser nos forces, c'est la plus petite chose qu'on peut faire pour faire la plus grande différence. Et c'est joli comme phrase, parce que ça veut dire on a déjà tout, mais il faut prendre conscience de ce qu'on fait bien, et être en mesure derrière de l'utiliser pour de vrai. Et ça nous donne un vraiment très beau paysage. Et moi, je dis, c'est un sujet qu'on devrait tous avoir eu la chance de découvrir depuis petit, parce qu'en fait, c'est notre confiance en nous qui est là. Et on a tous des très belles capacités et ces forces-là qui sont des alliés pour tout notre chemin de vie, quoi. Je pense vraiment ça, et notre chemin de vie professionnel d'autant plus, parce que c'est des clés de motivation, ça, les forces.
Yeah, je suis 100% d'accord. Et c'est vraiment des choses qu'on explore en bilan de compétences, notamment, et j'aime beaucoup ce que vous dites dans le livre sur arrêter de vouloir développer ses faiblesses, mais vraiment tout miser sur les forces.
Ouais, exact. J'en parlais encore la semaine dernière dans un accompagnement. On a cette tendance, et c'est pas contre nous, hein, on dit appris comme ça à pouvoir et devoir être bon partout. Regardez, à l'école, on nous a appris à essayer, si vous aviez dans un bulletin scolaire des bonnes notes, je sais pas, 16 en français, 17 en histoire, mais par contre, 8 en maths, 7 en physique et 6 en techno, j'en sais rien. On se disait, bon, les matières, ça va bien, ok, ça y est, c'est fait, c'est acquis, puis allez vite travailler tout ça dans ce dans quoi vous n'êtes pas bon pour relever le niveau. Alors oui, c'est pas bon de les garder à un niveau trop bas, ces faiblesses ou ces choses qui marchent moins bien, mais c'est pas non plus le but d'avoir 18 partout. Alors, à l'école, c'est encore peut-être la fin de la métaphore, parce que selon ce qu'on veut faire, avec les Parcoursup, tous ces trucs-là, parfois il faut avoir des bonnes notes. Mais en fin de compte, ce que je veux juste illustrer là, c'est qu'on a appris avec effort, avec détermination, qu'on pouvait être bon partout. Et tant mieux, ça veut dire qu'on peut développer plein de choses. Mais ce qu'on amène ici dans la philosophie d'effort, c'est qu'il y a des trucs qui marchent déjà super bien, dont on n'a même pas conscience, et que si on s'appuie dessus, en fin de compte, ça nous ouvre un champ des possibles très très grand. Et que parfois, c'est pas la peine d'aller juste chercher à mettre toute son énergie à développer des faiblesses, alors que si vous vous servez de vos forces, vous pourrez même compenser certaines faiblesses. Et ça, c'est pas juste le bon sens qu'il dit, hein. Ça a été prouvé. On a vu chez des sportifs de haut niveau, chez des entrepreneurs qui ont très bien réussi, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont brillamment réussi dans leur carrière. En fait, c'est des gens qui passent la majorité de leur temps à utiliser leurs forces. Et dans les domaines où c'est moins leur truc, soit ils compensent leurs faiblesses par des forces, soit ils s'allient à des personnes complémentaires, mais la plupart de leur temps, ils sont là où ils sont bons. Et là où on est bon, c'est un domaine sympa. C'est là où on est bon, on est motivé, on se sent aligné à faire ce qu'on a. Et idéalement, il faudrait qu'on passe la majorité de notre temps là-dedans, quoi. C'est un endroit très stimulant, quoi. Moyennant des temps de repos, mais on parle ici vraiment de la motivation intrinsèque. On parle pas d'être des super-héros et de jamais avoir besoin de dormir, mais on parle de ce que ça génère comme émotion et comme sensation agréable à l'intérieur.
C'est ça, et puis le rendement, il est exponentiel comparé à
Exactement.
travailler des heures et des heures sur des faiblesses où on n'arrivera jamais à un niveau suffisant parfois, en fait, hein, tout simplement.
Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, mais de temps en temps, on a bien vu que certaines faiblesses. Je prends parfois le parallèle avec l'écriture. Vous imaginez écriture avec la main habituelle, la main inhabituelle. C'est comme si avec cette main inhabituelle, vous appreniez à écrire, à écrire. Ben, à un moment, vous écrirez presque aussi bien que l'autre. Mais on dit, mais à quoi bon alors que vous en avez déjà une qui marche déjà bien? Si vous vous cassez celle qui va bien, oui, ça vaudra le coup de temps en temps parce que ça peut être manquant si vous faites une activité manuelle où il faut une certaine dextérité dans les deux mains ou vous êtes au bloc chirurgical, il vous faut les deux mains. Peut-être oui que c'est intéressant. Et à tant mieux de développer cette qui n'était pas habituelle. Mais dans la majorité des activités, votre main qui marche bien, en fait, si vous prenez conscience qu'elle marche bien, vous pourrez en faire des choses bien supplémentaires. En fait, c'est avec elle que vous pourrez développer des compétences, faire des choses nouvelles parce que vous maîtrisez déjà la force dedans, la force dans vos doigts, etc. Bah, c'est un peu pareil avec nos forces. C'est un socle avec lequel on peut aller affronter toutes les situations parce qu'on sait déjà que ça marche bien chez nous. Et ça, on a cette conviction. Donc, on peut faire plein de choses géniales. On s'appuie sur nos forces.
Carrément. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable et tu as déjà dû entendre ces réflexions aussi, mais est-ce que finalement le piège de la psychologie positive, c'est pas de tout accepter, de développer une super résistance au stress et du coup que les organisations peuvent abuser de leurs salariés, la résilience, etc. C'est super. Et en même temps, à quel moment c'est un piège pour le salarié aussi?
Bah, c'est pour ça que je trouve très intéressant que notre échange il a commencé en parlant des trois types de ressources parce que dans le livre, évidemment, pour de l'auto-coaching, on fait du focus sur les ressources individuelles et mes ressources de moi dans mon travail ou de mon vécu au travail, c'est-à-dire là où je peux avoir la main. Mais il faut jamais oublier qu'il y a cette troisième type de ressources qui est qu'est-ce que l'entreprise partage et donne. Et c'est-à-dire que si ces ressources, elles sont pas alimentées, ben on a beau alimenter nous-mêmes les autres, ça va pas suffire. Et inversement, d'ailleurs, si l'organisation, elle alimente ses ressources, mais que la personne, elle fait pas sa part, ça va pas suffire non plus. Et c'est là où je suis d'accord avec les critiques qu'on peut faire, qui sont pour moi une façon de faire attention à pas tomber dans une surresponsabilisation de l'individu ou une unique responsabilité de l'individu, on pourrait dire ça comme ça, qui est le seul à être responsable s'il est heureux, pas heureux, etc. Non, c'est pas vrai. On a des choses à faire et je trouve que c'est plutôt rassurant et tant mieux, on a une part de choses à faire, mais il faut toujours le remettre dans un contexte et dans des situations, avec des situations qui sont parfois très en phase avec le travail et ce qu'on peut fournir sur nos ressources et parfois qui sont pas du tout alignées et qui viennent aussi de temps en temps dire que Il faut bouger de voie, bouger de poste, bouger de complètement d'organisation, de travail, voilà, qui viennent de temps en temps. Parce qu'au même titre, en fait, cet alignement, il est hyper important. Tout à l'heure, je vous parlais de la mission d'une entreprise, mais ça, c'est le sens que va avoir mon organisation. Mais il faut que ce soit aligné. On en parle dans un des chapitres, on appelle ça le triangle du sens. Il faut qu'il y ait du sens à travailler dans ce lieu-là, mais que ce sens, il soit relié à mon sens personnel, dans ma vie en général, et puis le sens que je mets dans mon travail. Et s'il y a le triangle, il marche bien, il est bien relié, ça fait un combo magique. Si par contre, je suis super motivée à travailler, mais que derrière, c'est complètement déconnecté des valeurs qu'on me demande de suivre, et vous voyez bien, on est coupé en deux, et ça marche pas. Donc, bien, c'est bien important de se dire, je peux faire des choses, j'ai la main sur des choses, mais attention, c'est tout ça dans un contexte aussi et une responsabilité partagée, en fait. C'est ça qui est important. Et que c'est normal aussi qu'à des moments, on ait des émotions compliquées, qu'on ait d'ailleurs des relations qui ne marchent pas toujours, que parfois on perde un peu du sens, comme on l'a bien vu et on le sent encore un peu après le Covid, etc. Une vraie quête de sens. Mais en fait, la psychologie positive, elle ne dit pas, comme tu le disais, Clarence, elle ne dit pas devenez des super-héros et gérez tout. Elle dit, peut-être on pourrait dire comme ça, on peut avoir des ressources aussi dans ces situations. Parce qu'en fait, une émotion compliquée, c'est une émotion désagréable à vivre, ça on n'enlèvera pas, mais en fait, c'est une émotion qu'on ressent pour quelque chose. On ne ressent pas juste pour être malheureux, etc. Si on est triste et on va perdre quelque chose ou qu'on a perdu quelque chose et que du coup, derrière, si on entend le message là, on va pouvoir aller chercher à y répondre, trouver comment s'en sortir. Je pense aux gens qui perdent du sens en ce moment. C'est important de confronter cette question, même si elle est un peu, elle fait un peu peur, elle fait un peu abyssale comme question. Mais en fait, quand on la regarde, on peut ne pas trouver de sens. Mais le but, par exemple, de nos accompagnements, c'est de créer du sens, sortir du sens. Et si on n'a plus de sens, c'est que on a besoin d'en remettre. C'est pas juste en se disant on va regarder, tout va bien, maintenant je me pose plus de questions. Non, c'est dans ces situations-là, je peux aussi aller regarder et voir de quoi j'ai besoin pour remettre du sens, revivre des bons moments. Et on peut être parfois décisionnaire de dire je pars dans un endroit, je quitte quelque chose parce que ça me correspond plus et ça me permet plus, moi, d'alimenter des ressources qui compense en fait ce qui me manque, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis très claire dans tout ce que
Si,
je
je
dis
vais même
là,
te
mais
demander.
un équilibre est important et une co-responsabilisation est indispensable. Sinon, tout ça, tout ce qu'on se dit, oui, tout le monde peut être heureux, tout le monde a affaire, si t'es malheureux, c'est de ta faute. Et puis alors là, on finit ici, on s'arrête là et ça a plus vraiment de sens tout ce qu'on partage. Il y a vraiment un axe donnant-donnant à trouver dans tous ces sujets pour que ça marche bien.
C'est ça, et si on va même, si on descend même un peu plus dans le concret, est-ce que tu as, toi, des questions ou des signaux où tu dis qu'il faut être vigilant, qui indiqueraient justement qu'à un moment donné, c'est pas nous, c'est l'organisation, ou c'est ce rapport entre les deux?
Là, quand on parle, moi, ce que ça m'évoque, c'est aussi un petit outil, une petite pratique de la psychologie positive qui s'appelle le job crafting. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, mais
Jamais.
le job crafting, ça consiste en fait à... Donc, crafter, ça veut dire façonner, et en français, ça serait façonner son emploi. Et ce que ça voudrait dire, c'est en fait essayer de décortiquer son travail pour comprendre de quoi il est fait, notre travail. Concrètement, vous faites quoi, en fait, dans votre poste? Eh ben, par exemple, mon travail, j'anime des formations, j'ai écrit un livre, enfin, alors il est fini, donc c'est plus vraiment une tâche actuelle, mais j'anime des formations, j'écris, je réponds à mes emails, je gère des projets. Et en fait, on fait une liste assez exhaustive de tout ce qu'on fait dans notre boulot. Et face à ça, on regarde un petit peu comment on se sent, on regarde un petit peu les émotions que ça me procure, ces différentes tâches, qu'est-ce que j'utilise, on parlait des forces, est-ce que ça m'anime, est-ce que ça me motive ou pas trop, est-ce que j'ai du sens dans ça ou pas. Et puis, quand on a ce tableau bien clair devant soi, d'avoir décortiqué son travail, on se demande si ça nous convient, et si ça nous convient très bien, on le maintient. Si ça ne nous convient pas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je le fais plus? Est-ce que je le fais moins? Est-ce que j'essaye de changer un peu ma perception? Ou est-ce que je suis coincée? Voilà, si on va dans la question tout à l'heure, peut-être qu'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas et regarde, on peut regarder si on a quelque chose à en faire, si on peut en faire quelque chose ou si c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et dans ce cas-là, quelle décision je prends? Est-ce que je prends la décision de me dire, bon, ça me convient pas, mais j'ai les autres choses qui compensent et ça me convient bien pour rester ou pour continuer à faire ça? Est-ce que je trouve plus trop l'équilibre? Et dans ce cas-là, j'essaye de faire des choses, et si on me les refuse ou si c'est pas possible, et ben, parfois, je peux bouger, changer d'endroit, voir. En fin de compte, ce que j'essaye ici de mettre, c'est un petit peu d'essayer de concrétiser cette réflexion pour voir est-ce que c'est des choses sur lesquelles je peux avoir un impact, changer quelque chose, ou est-ce qu'à un moment, peut-être qu'il y a des choses non, ou j'ai même pas envie d'aller bouger quelque chose, ça me convient pas, c'est trop une grosse ligne dans mon tableau général. Et dans ce cas-là, bah, je pense à ça, par exemple, avec des managers parfois un peu difficiles ou des situations relationnelles avec des collègues très compliquées, la perte de sens dans l'activité, une rétrocession de poste, je sais pas, des gens, par exemple, on dit des fois mis au placard, à qui on donne plus, jamais plus de tâches intéressantes à faire. Enfin voilà, il y a des situations. J'ai beaucoup parlé des liens avec les managers, mais attention, parce que là aussi, encore une fois, c'est une co-responsabilité. Je ne pense pas que le manager soit le seul à féliciter ou à brimer quand il se passe quelque chose, parce que lui aussi, il a des managers au-dessus de lui et il a aussi des collaborateurs en dessous. Je pense que c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu tout le monde. Et est-ce qu'on peut harmonieusement trouver des choses? Donc, voir s'il y a des possibilités de faire bouger les choses quand ça ne nous satisfait plus, ou alors on n'arrive pas à bouger, on ne veut plus, on ne voit pas. Et dans ce cas-là, on a toujours des choses à faire parce que décider de partir, décider de changer, décider de créer quelque chose de nouveau, c'est aussi une décision.
Alors justement, quels seraient tes meilleurs conseils à destination des personnes qui souhaitent se reconvertir, qui seraient basés sur la psychologie positive?
Bah, peut-être celui que je donnais tout à l'heure, c'est de pas vouloir tout effacer de ce qui s'est passé jusque-là, parce qu'il y a des très belles choses à garder, des billes de réussite, des billes de confiance, des bonnes relations. C'est sûr qu'il y a des choses qui se sont bien passées. Puis le conseil, ça serait d'aller vers quelque chose qui va vers cette motivation intrinsèque, un truc qui vous ressemble, qui vous plaît, dans lequel vous sentez que vous êtes vous-même, qui correspond vraiment à des forces que vous avez envie de mobiliser, de développer, où vous sentez cette petite énergie, là, cette vitalité, cette motivation que ça procure. En fonction d'où on va dans la reconversion, n'oubliez pas de temps en temps de faire des petites pauses et de prendre aussi soin un petit peu de vous, parce que je sais qu'aussi en fonction d'où on est dans la reconversion, il y a des moments avec plus faciles que d'autres. Donc, qu'on ait bien pris le temps aussi de poser les choses, de même s'être reposé et de repartir de plus belle vers des... Parce que c'est un sacré boulot, la reconversion. Et puis cette recherche, elle est parfois très dynamisante, des fois fatigante, des fois un peu anxiogène, des fois... voilà, donc au milieu de ce cadran des émotions qui peut parfois être un peu mouvant, de temps en temps, rappelez-vous de prendre des petites zones de récupération. Ça, je crois que c'est... Pour tout le monde, ce serait un bon conseil, mais peut-être aussi là. Et puis, ouais, d'aller vers quelque chose qui vous plaît... qui vous donne envie, qui vous permet de vous sentir compétent, être à la bonne place, qui fait sens, voilà, aller vers quelque chose qui fait du sens. C'est un petit peu ce mélange de tout ce qu'on a dit jusque-là, mais prenez le temps de les regarder, quoi, ces sujets. En fait, c'est une super belle opportunité pour se poser ces questions et de réajuster ou se réaligner entre soi, ses envies, ses valeurs et le travail qui va nous correspondre et qui va nous correspondre et correspondre à tout ça.
Super, merci. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller
Si je peux faire une auto-promotion de nos supports, c'est que donc, nous, l'entreprise, notre entreprise, c'est Positran, comme la Positive Transformation, et dedans, on a plein de blogs gratuits où justement, on essaye d'éclairer sur chacun de ces leviers l'autonomie, les forces, les émotions. On donne plein d'illustrations, mais évidemment, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de livres à lire sur ces sujets, sur la psychologie positive et puis sur les études qui sont autour. Donc, le livre, il est pas mal.
Il est très bien, je confirme.
Non, il reprend tous ces sujets, mais vous pouvez aller bien plus loin. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a plein de ressources gratuites, beaucoup de... Les vidéos, peut-être vous connaissez les vidéos... Je ne sais pas si ça fait publicité, mais les vidéos TEDx ou les choses comme ça, qui parle Daniel Pink, Sean Accord, il y a aussi un chercheur sur la motivation qui s'appelle Miyai Chikunmiyai. Il y a pas mal de chercheurs de la psychologie positive qui ont fait de ces vidéos gratuites qu'on retrouve facilement sur leur site, qui donnent aussi des éclairages sur une modalité un peu plus sympa, une petite vidéo de 10-15 minutes. Voilà, ça peut être des bons liens pour aller creuser un peu les sujets qui vous plaisent.
Super, je mettrai toutes les références dans la description de l'épisode. Pour conclure, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter ?
Je vais essayer de piquer la conclusion à quelqu'un que j'adore aussi, qui est une bonne référence à vous donner, qui est Serge Marquis. Je ne sais pas si vous connaissez ce Canadien qui fait des conférences excellentes. Et ben, il dit tout le temps, ne croyez rien de tout ce que je vous ai dit, faites-le. Et je crois que la psychologie positive, elle a une spécificité particulièrement reconnaissable, c'est qu'elle est très pratico-pratique. Donc derrière tout ce qu'on s'est dit, il y a beaucoup d'exercices, de pratiques, et donc ça se teste, ça s'expérimente, et c'est que comme ça que vous verrez la portée de ces sujets et que vous sentirez vraiment cette motivation qui peut découler des exercices. En tout cas, ne serait-ce que juste aller chercher votre propre motivation, c'est un joli exercice et un joli challenge à aller atteindre. Voilà.
C'est ça. Et il y a plein d'exercices dans votre livre, effectivement, que tu as écrit, en tout cas avec Ilona Boniwell, dont je vais rappeler le titre, qui s'appelle « Psychologie positive, 10 séances d'auto-coaching pour se motiver et s'épanouir dans son job » aux éditions Vibert. Merci beaucoup, Justine, pour cette interview très riche en infos et en conseils. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation, Clarence, et merci à tous.
Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.